La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard.
En voiture avec notre ami Marc Bouchard pour repartir sur un essai branché, c'est le cas de le dire, avec le nouveau Hyundai Ioniq 5, très populaire d'ores et déjà, mon cher Marc.
Ben oui, très très populaire, et je suis obligé de te reprendre, ce n'est pas un Hyundai, c'est un Ioniq 5. C'est-à-dire que ce que l'on a fait, c'est qu'auparavant, dans la famille Hyundai, il y avait effectivement un modèle qui s'appelait Ioniq, okay, qui était disponible en version 100% électrique et en version hybride branchable, notamment. Mais depuis, on a divisé la famille Ioniq. On l'a vraiment mis à part. Comme on a fait, par exemple, chez Chrysler, quand on a mis Ram à part plutôt que Dodge Ram. Et un peu comme on a fait aussi chez Hyundai encore avec Genesis. Mais là, on l'a fait avec Ioniq, qui sera la division électrique. Et le premier modèle, ben, c'est la Ioniq 5, effectivement. Il y en aura d'autres. On sait qu'il y aura une Ioniq 7, entre autres, qui va arriver, là, qui va être un VUS un peu plus gros. Bref, on veut vraiment avoir une gamme assez complète.
Alors, c'est une stratégie marketing, évidemment. À terme, toutes les voitures vont devenir électriques. Donc, je me demande un petit peu ce qu'il va advenir de la marque mère Hyundai. Mais il me semble quand même que cette voiture porte le badge avec le fameux H.
Elle a un logo particulier en avant qui n'est pas exactement le même que celui de Hyundai. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est littéralement, strictement une intervention marketing. Ceci étant dit, ça demeure quand même un véhicule tout à fait particulier parce que c'est le premier d'une génération, je dirais, de haute technologie par rapport aux autres véhicules électriques.
En effet, donc, et puis de par son physique, déjà, elle se démarque, cette voiture.
Oui, effectivement, elle a vraiment un design très particulier. Elle est techniquement considérée comme un VUS. Mais, bon, tu conviendras avec moi que c'est un petit VUS une très grosse familiale.
C'est ça.
C'est un véhicule, donc, qui est vraiment un format assez unique. D'autant que, parce que c'est un véhicule électrique, il n'a pas à vivre avec les considérations et les contraintes de fabrication de moteurs à essence traditionnels. Ce qui fait qu'on peut dégager un plancher tout à fait plat et avoir un empattement qui est très long. Donc, l'empattement de la Ioniq 5 est le même que celui du Hyundai Palisade.
Ah oui, donc ça favorise un bel habitacle, j'imagine.
Exactement. C'est que là, tu as de l'espace à la fois à l'avant, à la fois pour les occupants arrière, et tu as un espace de chargement qui est digne de mention. Donc, évidemment, ça permet de maximiser tout ça. On a quand même utilisé cet espace-là de façon, je dirais, particulière, notamment avec le siège avant qui s'abaisse presque complètement, un peu comme une couchette. L'idée, c'est qu'on dit, bon, mais les gens vont s'arrêter parfois dans des bornes de recharge et plutôt que d'attendre dans un siège un peu inconfortable, on va pouvoir abaisser le siège tout simplement et se reposer. On pourra même faire une petite sieste, le cas échéant. C'est plus confortable que la plupart des sièges d'avion, je dirais là.
Ah oui, l'habitacle a l'air plutôt accueillant, ultra moderne aussi. On retrouve évidemment des grands écrans qui font le charme des véhicules modernes. Il y a un volant un petit peu particulier peut-être. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les sensations, les premières sensations, première prise en main?
Ben, effectivement, tu as raison de dire qu'on est dans un environnement assez différent, mais qui est de plus en plus fréquent avec les différents véhicules électriques qui sont proposés. Donc, oui, tout l'affichage est basé sur des écrans. Ce sont des projections vidéo et ce ne sont plus des cadrans comme on avait auparavant, des cadrans physiques.
C'est ça.
Évidemment, il faut s'habituer à cette ergonomie-là parce que on cherche un peu les fonctions quand on commence. Par contre, on s'y fait assez rapidement. Et il y a toujours l'avantage d'avoir le Blue Link, qui est l'application qui nous permet de communiquer directement avec notre téléphone intelligent, avec la voiture. Donc, quand elle est branchée, par exemple, quand moi je l'ai branchée à la maison, j'ai pu à ce moment-là la démarrer, faire chauffer l'habitacle ou la préconditionner avant de prendre la route, sans avoir vraiment à user de la batterie, parce que j'étais branché sur le réseau. Donc, ça permet cet élément-là. Ça te donne aussi, bien sûr, la possibilité de déverrouiller à distance et de faire tout ce que tu veux, et de contrôler aussi tes recharges à distance. Ceci étant dit, on parle quand même d'un véhicule qui est intéressant parce que moi, j'avais la version qui était la version la plus équipée.
Okay? Oui.
Et donc, on appelle ça la Preferred, avec une longue autonomie, traction intégrale, avec l'ensemble Ultimate. Donc, à peu près tout ce que tu peux t'imaginer comme fonction disponible sur une Ioniq 5 était sur cette voiture-là, mais ça fait une voiture de 60 000 $, hein, faut que je le précise.
D'accord, oui, c'est la question que j'allais te poser parce que lorsque l'on voit les images de la photo, de la version de base, j'allais dire, on a l'impression qu'on n'est pas nécessairement dans un véhicule qui se veut extrêmement luxueux.
Mais en fait, il est très, très bien équipé, même en version de base. C'est juste que la grande différence, elle vient, bon, comme je dis, moi, j'avais l'ensemble Ultimate qui vaut 5 000 $ à lui seul, qui rajoute plusieurs éléments de confort et tout ça. Et j'avais aussi la batterie longue durée, qui est une batterie à autonomie prolongée. Donc, c'est une batterie qui utilise 77,4 kWh et qui, théoriquement, devrait nous permettre une autonomie d'à peu près 420 km.
Alors parlons-en justement de cette autonomie. Théoriquement, tu nous dis, ça veut dire que tu as testé pour nous?
Ben oui, mais en fait, je dois dire que quand je l'ai testé, c'était la fameuse période des moins 25 degrés à l'extérieur,
Ah oui.
et qu'évidemment, ça affecte considérablement l'autonomie de tous les véhicules. C'est même reconnu. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de le faire, vous pouvez consulter un site qui est un site québécois, par contre. C'est l'Association des véhicules électriques du Québec avec AVEQ.QC.CA. Ils ont réalisé une journée d'essai il y a quelque temps où il y avait 21 véhicules électriques et ils ont vérifié justement la perte d'autonomie due au froid de ces 21 véhicules-là. Donc, vous avez la fiche complète là, en vous donnant une idée de ce qui a été perdu par rapport à l'autonomie réelle. Dans le cas de la IONIQ 5, j'ai été un peu nounou. Okay? Je m'explique. Je n'ai pas regardé la distance que l'on me permettait, j'ai plutôt regardé la capacité de la batterie. Or, j'étais à 65%. Je savais que je devais me rendre à un certain endroit qui était à 202 km. Or, moi, dans ma tête, 65% de 420 km me donne largement de quoi faire les 200 km prévus. J'ai mal regardé parce que quand j'ai appuyé sur le bouton pour démarrer le moteur, j'étais à 165 km d'autonomie. J'ai donc dû m'arrêter en chemin pour recharger, bien entendu. J'ai passé une demi-heure à une borne de recharge rapide qui m'a rajouté 90 km. Mais quand même, avant de me rendre à destination, il me restait 21 km d'autonomie pour une distance de 20 km à peine. J'ai donc dû fermer le chauffage pour y arriver. Mais ça, tout ça, c'est ma faute, c'est-à-dire que c'est moi qui ai mal géré l'autonomie, la perte d'autonomie du véhicule en fonction de la température qu'il faisait, parce qu'il faisait moins 22 à ce moment-là. Donc, évidemment, oui, il y a une perte. En revanche, quand on est dans la voiture et qu'elle nous affiche une autonomie, honnêtement, on est à peu près, je dirais à 1 km près, on est très précisément renseigné sur la distance disponible. Donc, si la voiture vous dit, vous faites 102 km, ben, si vous roulez 100 km heure, vous allez effectivement faire les 102 km tel que vous l'annonce la IONIQ 5. Donc, de ce point de vue-là, elle est fiable. Il s'agit évidemment de la charger au bon moment quand on en a besoin. Mais pour le reste, c'est une voiture qui est vraiment spectaculaire. Rouage intégral qui va très bien. Le confort à l'intérieur est étonnant. Les sièges donnent un bon support. La direction, écoute, ça demeure une voiture électrique. Donc, évidemment, c'est pas une voiture sportive, mais elle est quand même capable de se contrôler très aisément. Et il y a plein d'éléments particuliers, entre autres, une espèce de chargeur qui te permet de transformer, si tu veux, ta IONIQ 5 en une prise de courant sur laquelle tu peux brancher des trucs. Alors, quand ils ont fait la présentation il y a quelques mois en Ontario, il y avait, par exemple, branché une cafetière directement sur la voiture, et c'est la voiture qui nous préparait notre café.
Ça peut être pratique pour nous autres Canadiens pour se réchauffer un peu en attendant la recharge peut-être. Tu disais que c'est pas une voiture sportive, mais j'ai quand même vu sur la fiche technique qu'elle est capable d'abattre le 0 à 100 en à peu près 5 secondes. C'est quand même pas mal.
Non, effectivement, écoute, elle est quand même puissante, là. On parle de 320 chevaux dans sa forme la plus puissante, avec 446 livres-pieds de couple à peu près en mode combiné, parce que tu sais qu'il y a des moteurs à l'avant et à l'arrière pour le rouage intégral.
Intérieur.
Tu l'as dit, ça fait le 0-100 en 5,1 secondes. C'est vrai que c'est, comme toutes les voitures électriques, c'est rapide, c'est véloce, mais tu n'as pas la sensation d'une voiture sportive. Peut-être parce que je vieillis, peut-être parce que les vibrations qui viennent avec le moteur à essence me rappellent un peu plus la conduite sport, mais bon, parce que tout est électrique, tout est électronique, on a moins de communication directe, on a moins de rétroaction de la part de la direction, de la part du volant, et on se peut-être, sent peut-être moins dans une voiture sportive qu'on pourrait le croire, mais malgré tout, tu as raison. si tu regardes la vitesse pure, clairement, elle est là. Écoute, elle fait le 80-120 en 3,2 secondes à peine.
Ah oui, oui, ça fait réfléchir quand même. Tu nous as donné le prix, toute option, mais je crois que le prix de départ se place relativement bien par rapport à ses concurrentes.
Oui, effectivement. C'est une voiture qui est, en fait, elle est conçue, elle est à 44 999. Bon, la raison de ça est simple, c'est qu'il existe des provinces où les programmes d'aide financière gouvernementaux s'appliquent uniquement si la version de base est disponible en bas de 45 000.
C'est ça.
Donc, on a retiré un dollar pour être certain que ça c'était admissible. Donc, oui, la version essentielle à autonomie, ce qu'on appelle autonomie standard, on a à ce moment-là une plus petite batterie, 57 kWh à peine, mais quand même, là, on est bon pour 350 km à peu près, mais évidemment, elle n'est pas dotée du rouage intégral. Si on veut aller vers la longue autonomie, si on veut avoir la traction intégrale, qui est... Il faut absolument opter pour la longue autonomie. Et là, ben, on parle d'un véhicule qui vaut 55 000 $ ou à peu près. Là.
Ça reste cher, mais ce IONIQ 5 nous prouve que l'automobile tout électrique se démocratise petit à petit. De quoi inquiéter certainement certains géants du secteur comme Tesla, par exemple.
Oui, mais en fait, je te dirais que c'est l'une des voitures qui, effectivement, est probablement la plus sérieuse dans la lutte au premier rang des voitures électriques. Un élément dont je ne t'ai pas parlé, c'est la vitesse de recharge. Parce que la IONIQ 5, elle est construite comme la Porsche Taycan, par exemple, ou la Audi e-tron GT RS dont on a déjà parlé. Mm-hmm. Elle est construite sur une architecture qu'on appelle 800 volts. Ce que ça permet, c'est que ça permet, quand on va sur des bornes ultra rapides, comme il y en a, par exemple, en Ontario avec Electrify Canada, notamment, ce sont des bornes qui nous permettent de récupérer normalement là, de 20 à 80 de passer de 20 à 80 d'autonomie en à peine 30 minutes.
Oui, en effet, il ne reste plus qu'à espérer que ce genre de bornes ultra rapides vont se démocratiser elles aussi, et peut-être que moi-même qui suis un fanatique du moteur thermique, je me laisserai convaincre. Merci mon cher Marc.
Ça me fait plaisir. Bye bye.